Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans Chefs-d'œuvre en réserve, une série inédite conçue avec l'Acmé Productions. L'origine de la fabuleuse collection de la Cinémathèque française remonte à 1936. On la doit au travail acharné de son fondateur Henri Langlois, obsédé initialement par la conservation des films muets risquant de disparaître, avant de l'être par celle de toutes les pièces et traces constitutives de son histoire. Appareils cinématographiques, films, costumes, archives de toute nature. Le fonds s'est enrichi au fil du temps de donations et d'acquisitions provenant de toutes les cultures cinématographiques au point de constituer aujourd'hui la plus grande collection au monde. Qu'on en juge, 6000 machines de cinéma, 80 000 films, 3 800 costumes et accessoires, des archives innombrables, scénarios de films, photographies, correspondances de réalisateurs. Si cette mémoire vivante du 7e art a pu être constituée et continue de l'être, c'est en raison de cet amour passionné que lui portent ses différents protagonistes, réalisateurs français et étrangers dont certains légendaires, scénaristes, producteurs et distributeurs et tous les corps de métier, scripts, chefs opérateurs, monteurs, restaurateurs et bien d'autres encore. Les réserves de la Cinémathèque française sont à l'image de la collection. Un univers foisonnant, baroque, fantastique, où sont conservées des œuvres auxquelles se rattachent pour chacun ou chacune d'entre nous des souvenirs très intimes de nos existences. Un générique, un dialogue, une scène, l'expression du visage d'un acteur ou d'une actrice, un costume, une musique. En partant à leur découverte, c'est à la traversée de l'histoire du cinéma mondial que nous vous invitons. Pour nous conter cette épopée prodigieuse, Laurent Manoni, directeur scientifique du patrimoine, Hervé Pichard, directeur des collections de films, Delphine Varin, chargée des collections papier, et Charline Carrère, chargée de collections costumes et objets. Allez, moteur, on tourne. Alors nous allons à la rencontre de quelqu'un qui est en fait la mémoire des appareils cinématographiques. Laurent Manoni, qui est directeur scientifique du patrimoine et que je vois au loin. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et je dois vous dire que quand j'ai pénétré dans ce lieu, j'ai été pris par une émotion très forte. On a l'impression qu'on rentre en fait dans la mémoire du cinéma. Est-ce que vous avez toujours cette émotion quand vous pénétrez dans ce lieu ?
C'est toujours un plaisir, une joie de découvrir toutes ces merveilles. En fait, ici, vous êtes dans les réserves des collections d'appareils de la Cinémathèque française et du CNC. C'est une des plus belles collections au monde. Elle a été créée en 1936, donc elle est déjà assez ancienne. Et elle contient plus de 6000 machines.
6000 machines.
De cinéma.
Alors, ça couvre quelle période ? Vraiment 36 ?
Ah, non. Alors, très bonne question. En fait, nous conservons aussi des machines extrêmement anciennes et des machines extrêmement récentes. Donc, les machines les plus anciennes, ce sont des machines, par exemple, du 18e siècle, des machines d'optique, à illusion d'optique, ou bien des appareils de projection qui datent du 18e siècle. Et les machines les plus récentes, c'est les machines numériques qui commencent déjà à arriver parce que leur obsolescence est extrêmement rapide.
Alors, bien que vous soyez très jeune, vous êtes quand même la mémoire de ce lieu et de ces appareils. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est constituée la collection ?
Alors, en 1936, la Cinémathèque française est créée par Henri Langlois, qui était un grand cinéphile, un amoureux fou du cinéma. Sa mission était de conserver le cinéma, plus particulièrement le cinéma muet, qui était déjà disparu, mais dont les pellicules étaient menacées de destruction. Donc, sa principale mission, à l'époque, c'était de conserver les films et de les projeter. C'était vraiment un cinéphile maniaque, fanatique. Mais très vite, il s'est aperçu qu'il fallait aussi conserver les archives, les éléments de décor, les costumes, les maquettes, les dessins, les scénarios, les photos, photos et les machines. Et en fait, il y a un acte absolument fondateur pour lui. La veuve de Georges Méliès, en 1939, lui offre la caméra de Georges Méliès et le projecteur de Méliès. Et à partir de ce moment-là, Henri Langlois se prend de passion pour la technique et commence à accumuler des dizaines, des centaines de machines. La Cinémathèque, elle est née grâce à ça, grâce à un amour collectif du cinéma, de très grands réalisateurs comme Jean Renoir, comme Fritz Lang, comme d'autres encore, ont décidé de faire en sorte que la Cinémathèque soit le lieu où on pourrait conserver la mémoire du monde entier. Et ça, c'est très important. La collection de la Cinémathèque n'est pas française uniquement, elle concerne des éléments du monde entier. Que ce soit dans les archives, les affiches, les costumes ou les appareils, nous conservons des machines ou des éléments qui viennent d'Union soviétique, de Russie, des États-Unis, de Chine, d'Asie et évidemment de l'Europe entière.
Et est-ce qu'il y a par exemple des grands réalisateurs qui viennent dans ce lieu ?
Ah bien sûr, oui. On a reçu ici George Lucas.
Ah oui ?
Ah oui, qui a posé sa main sur la caméra de Méliès et il a dit ça c'est le début de Star Wars. Voilà, il était très ému, c'est comme s'il avait l'épine du Christ entre ses mains
quoi. Ah oui, ah, c'est très beau ça. Bon, alors vous voulez nous montrer donc le premier objet emblématique de la collection. Alors de quoi s'agit-il ?
Voilà, c'est le cinématographe Lumière, c'est un appareil vraiment très important dans l'histoire du cinéma. Il date de 1895. C'est cet appareil qui a fonctionné à la séance du 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand Café à Paris, boulevard des Capucines. C'est une séance historique, parce que pour la première fois, un certain nombre de publics payants assistent dans une salle obscure à la projection de films. Il y a une dizaine de films projetés à cette époque, donc réalisés par Louis Lumière, et c'est cet appareil qui a permis cette projection. Mais c'est un appareil hybride, très intéressant, parce que c'est à la fois une caméra, une tireuse et une projectionneuse de films. Alors à l'époque, les films étaient très courts, ça faisait 15 mètres, 20 mètres de pellicule, donc ça veut dire une minute de projection. Donc à chaque fois, il fallait changer le film. Mais le 28 décembre 1895, il y a une sorte d'électrochoc parmi le public parce que c'est vraiment une révélation. Tout d'un coup, les images s'animent parfaitement sur l'écran. Il y avait déjà eu beaucoup de tentatives avant, mais là, on touche à la quasi-perfection technique et esthétique. Et donc, ça fait vraiment un effet avec des films très importants comme La sortie des usines lumière, L'arroseur arrosé, et toutes sortes de très très grands classiques aujourd'hui.
Qu'est-ce que ressentaient les premiers spectateurs de cette séance, à votre avis ?
Alors, il y a eu un gros effet de surprise, parce qu'en fait, Louis Lumière, qui était très malin, a commencé par projeter juste une image fixe du film. Et puis tout d'un coup, il a commencé à tourner la manivelle. Voilà. Et tout d'un coup, l'image s'est animée sur l'écran. Et donc, stupéfaction du public, quelqu'un comme Georges Méliès, qui était là lors de la première projection du cinématographe Lumière, au début, était de mauvaise humeur. Il dit, mais si c'est pour nous projeter des photos qu'on m'a fait venir, c'était pas la peine. Et puis tout d'un coup, le film se mettant en marche sur l'écran, il y a une sorte de stupéfaction, de sidération du public. Sidération. Et ensuite, les séances ont un succès fou. Hein.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire l'objet ? Parce que c'est presque une sculpture, un objet en bois. Enfin, c'est très, très beau esthétiquement.
Imaginez la machine à coudre de votre grand-mère, Singer. C'est à peu près le même mécanisme à griffe qui vient prendre la pellicule et qui vient la tirer vers le bas pour que l'image apparaisse dans le cadre d'une fenêtre. À ce moment-là, il y a un obturateur qui découvre l'image et puis il y a une lanterne magique qui est à l'arrière, hein, la fameuse lanterne magique du XVIIe siècle, qui éclaire très fortement cette pellicule. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, l'obturateur avance aussi, le film avance aussi, et ça permet la projection. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que ce système à griffe qui a été conçu par Louis Lumière en 1895, il va être repris dans toutes les caméras du monde entier jusqu'à l'arrivée du numérique. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de fabuleux. C'est un mécanisme qui a perduré extrêmement longtemps. Alors, il faut quand même apporter une nuance. Ensuite, pour la projection, il va falloir utiliser un autre mécanisme. On appelle le mécanisme à croix de Malte, avec un son qui est aussi différent mécaniquement, parce que en fait, la pellicule, à force d'être tractée, voilà, commençait à s'abîmer. Mais pour les caméras, c'est vraiment ce mécanisme-là qui allait être utilisé jusqu'à l'arrivée du numérique.
Bon, alors c'est bien beau d'avoir la plus grande collection du monde, mais comment on l'entretient ?
Ah oui, ça c'est un travail très délicat, parce qu'en théorie, toutes les machines mécaniques ici fonctionnent. Oui. Si on veut, on pourrait refaire des projections avec le cinématographe ou avec d'autres appareils, il n'y a pas trop de problèmes. Ce qui se complique un peu, c'est quand l'électronique arrive, là, effectivement, dans les années 50 notamment, les transistors, etc., ça devient un peu plus compliqué. Mais le cauchemar, c'est quand le numérique arrive. Voilà. Ça, c'est très difficile de remettre en route des caméras numériques déjà, des caméras de télévision notamment. Malheureusement, les logiciels sont perdus, les composants ont très mal vieilli, donc ça c'est très difficile.
Alors, on va faire une accélération dans le temps, je crois, et on va vers le Technicolor.
Ah voilà, alors ça, on est très fiers de posséder cette caméra Technicolor, parce qu'il y en a eu très peu. La caméra Technicolor, il n'y en a eu que 28.
Alors, voilà, on la découvre. Elle est protégée comme un trésor.
Elle est protégée, parce qu'elle est vraiment très précieuse.
Oui.
En fait, il y en a eu 28, mais le numéro 13 n'a pas été fabriqué par pure superstition.
Oui.
Donc, il y en a eu 27 en réalité. Et cette machine, c'est vraiment la Rolls-Royce des caméras. On n'a jamais pu faire mieux au point de vue mécanique, au point de vue optique, au point de vue de la couleur. Parce que c'est la première caméra qui permet de faire des films en couleur.
C'est là aussi, encore une fois, un très bel objet avec une couleur bleue sur un trépied. Alors, il faut que vous nous la décriviez.
Voilà. Comme c'était la première caméra à faire des films en couleur, le fabricant Technicolor a décidé de la fournir uniquement en peinture bleue.
Ah oui.
Voilà. Ce qui la distingue des autres. En général, les caméras sont noires parce qu'en fonctionnant dans des studios, il faut pas de reflets, etc. Il faut pas, ça attire l'œil. Celle-là, elle est toute bleue. Et à l'intérieur, il y a un mécanisme extrêmement sophistiqué, donc qui permet d'entraîner trois pellicules en même temps. Ce qui s'appelle la trichromie. De manière à avoir trois couleurs en même temps, parce qu'il y a un système de trois filtres qui permet d'impressionner donc ces trois couleurs. Et c'est grâce à cette machine que vont être réalisés des classiques immenses du cinéma américain. Donc, par exemple, Autant en emporte le vent, Le Magicien d'Oz, A Star is Born, etc. Cette machine a permis la réalisation de ces films mythiques.
Alors, on continue l'accélération dans le temps, et presque dans la mythologie, là.
Oui.
Parce qu'on va avoir une autre caméra.
Voilà, on va monter à un étage supérieur. On va vous montrer une caméra qui est une pièce unique aussi, qui est la caméra utilisée par James Cameron pour le film Titanic. Donc, une caméra 35 mm qui lui a permis, en fait, de filmer l'épave du Titanic.
C'est la vraie caméra ?
La vraie caméra qui nous a été donnée aussi par Panavision.
Bon, j'ai le cœur qui bat la chamade. Allons-y.
On prend l'escalier.
Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'en fait, cette énorme réserve est sur deux étages.
Ah oui. Oui, il y a 6000 machines réparties sur deux niveaux, mais on a encore une autre réserve dans Paris pour contenir les monstres qui ne rentrent pas ici.
Oui. Alors, voilà la fameuse.
Voilà.
Assez légère, vous la prenez...
Assez légère, mais... Il faut préciser que c'est une caméra donc pour filmer les fonds sous-marins. Il faut rappeler que le Titanic est quand même à 3500 mètres sous la mer. Donc il faut une caméra qui puisse résister aux fortes pressions pour descendre jusqu'en bas. En fait, cette caméra, elle était enfermée dans un caisson de forme hydrodynamique, si je puis dire, pour pouvoir la diriger facilement grâce à des nageurs.
Bon, Laurent, merci de nous avoir fait voyager dans le temps, entre les frères Lumière et puis, finalement, le cinéma contemporain. Ça a été une merveilleuse épopée. Voilà, merci beaucoup de cette visite qui était pleine de passion, parce qu'on sent qu'il y a de la passion chez vous.
Hein. Merci à vous.
Alors, nous venons de quitter Laurent Mannoni, qui est un formidable conteur, qui nous a fait traverser en fait l'histoire du cinéma et de ses appareils cinématographiques. Et maintenant, nous partons, Fort Saint-Cyr, pour rejoindre Hervé Pichard, un autre conteur, qui va nous raconter le mystère de la conservation et de la restauration des chefs-d'œuvre cinématographiques. D'arriver au Fort Saint-Cyr, où nous allons retrouver maintenant Hervé Pichard, qui est directeur des collections de films, et je l'aperçois dans la cour. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Merci de nous accueillir dans cet endroit. Mais alors, première surprise, on se dit que le patrimoine mondial de la cinématographie se trouve dans un fort. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fort ?
Alors, le patrimoine mondial du cinéma se trouve en effet dans plusieurs forts, puisqu'évidemment on n'est pas les seuls à conserver de la pellicule. Mais donc ici vous êtes aux collections films de la Cinémathèque française, pas très loin d'ailleurs des archives du CNC, à 1 km, qui eux conservent tous les négatifs, tous les nitrates. Sur ce site, on conserve essentiellement les éléments safety. Ce sont des éléments qui ont été fabriqués après l'époque du nitrate, au milieu des années 50. Donc ce sont essentiellement des copies d'exploitation ici.
Mais alors ce fort est un lieu inouï. Quelle était sa destination d'origine ?
Alors au départ, comme la plupart des forts autour de Paris de cette époque-là, ce sont des forts qui ont été construits pour se défendre contre les Prussiens. Et donc avec une architecture très particulière, puisque c'est une architecture enterrée. Comme vous pouvez le voir, la plupart des bâtiments sont recouverts de feuillages, d'arbres, qui ont d'ailleurs poussé avec le temps. Et donc de fait, de l'extérieur, on ne voit pas du tout la présence du fort.
Ah oui, c'est ça. Et mais alors comment vous vous retrouvez là ?
Alors ensuite, après les différentes guerres, le fort a été attribué à un centre météorologique, oui. Avec des fonctions très spécifiques que vous pouvez imaginer. Et ensuite, il a été attribué au ministère de la Culture, qui l'a confié à la Cinémathèque française pour y installer une partie de ses bureaux et puis les collections films de la Cinémathèque française.
Donc on va voir maintenant un élément qui fait partie un peu de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire un film Nitrate, vous m'avez dit, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Je vais vous montrer de la pellicule Nitrate qu'il faut de fait manipuler avec précaution, puisque le principe du support Nitrate, et en tout cas sa dangerosité, c'est qu'il peut s'enflammer sous forte chaleur, et c'est un support qu'on a du mal à éteindre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a pris feu, on ne peut pas l'éteindre, enfin pas avec de l'eau.
Bon, alors on vous suit.
Donc là, si vous voulez, on va passer par ces couloirs.
En fait, c'est l'un des dédales, là. Il y a des couloirs partout.
Il y a des couloirs partout. C'est un lieu assez labyrinthique.
Oui.
Puisque, en plus, on conserve des films sous différentes formes. On a du 16 mm qui sont conservés dans différents espaces. Oui. On a évidemment toutes les copies 35 mm. Et puis, le Nitrate qui, lui, est conservé un peu plus loin des bureaux pour éviter tout risque d'incendie.
D'accord. Alors donc là, on pénètre dans une chambre forte un peu.
Voilà, donc c'est une salle qui est isolée.
Oui.
Et c'est dans cet espace qu'on conserve les bobines nitrates.
D'accord.
Alors en fait, c'est très peu de bobines nitrates, puisqu'en fait, le principe, c'est qu'on ne reçoit ici que les bobines qui vont être traitées dans la journée ou dans la semaine, puisque la loi nous oblige à conserver tous les éléments nitrates au CNC, oui, dans des espaces appropriés. Donc ici, c'est vraiment deux armoires pour le travail du quotidien.
Mais là, je vois sur une des armoires, il y a quand même un nom énigmatique, Napoléon. Est-ce que ce serait le Napoléon de la Bellegance ? Non, quand même pas.
Alors, tout à fait, oui, c'est si. Comme vous le savez, on a travaillé pendant quelques années sur la restauration du Napoléon de la Bellegance. Et donc, cette armoire était dédiée à la conservation provisoire, encore une fois, du nitrate pour son traitement. C'est sûr que Napoléon a nécessité des heures de travail, des heures de visionnage, des heures d'expertise. Il a fallu regarder tout le film plan par plan.
Oui.
Et donc, il y avait toute une équipe dédiée à ce projet-là. Et aujourd'hui, voilà, le film, la restauration est terminée. Et j'espère que, en tout cas, c'est comme ça que c'est prévu. Normalement, dans quelques mois, on pourra voir le film projeté avec l'orchestre de Radio France.
Non, c'est extraordinaire.
Tout à fait. Bah oui.
C'est extraordinaire.
On est tous impatients parce qu'on a tous vu des morceaux du film, on a tous écouté les premiers essais d'enregistrement, etc. Et là, donc évidemment, de voir le film dans son entièreté, entièrement restauré avec l'orchestre de Radio France, ça va être un événement magnifique.
Oh, magnifique. Alors, vous voulez nous montrer une copie nitrate ?
Alors, je vais vous montrer une copie nitrate.
Ah oui, donc c'est très sophistiqué.
Voilà, le principe, c'est que les portes s'ouvrent toutes seules, oui, pour éviter de trop manipuler la bobine, de, oui, la poser, etc. Donc on garde la bobine entre nos mains et on la pose dans l'armoire. Et seulement, lorsqu'on en a besoin, on récupère la bobine qui est...
Alors, ça consiste en quoi, une pellicule nitrate ?
En fait, c'est un support qui a été indispensable dès l'origine du cinéma, puisque ça permettait, entre autres, le fait que la pellicule était suffisamment souple pour passer dans un projecteur. Le nitrate a été interdit dans les années 50, parce qu'en fait, il y a eu tellement d'incendies dans les salles de cinéma qu'il a fallu intervenir et encourager la profession à utiliser un autre support.
Bon, Hervé, on a vu donc la pellicule nitrate avec toute leur caractéristique, leur singularité dans ce sas de transit. Hein. Où est-ce que vous nous emmenez maintenant ?
Alors là, je vous propose qu'on aille dans une salle de visionnage.
Oui.
C'est une salle en fait où il y a tout le matériel technique, mm-hmm, pour visionner les films, les enrouler. Et donc voilà, chaque documentaliste, chaque chargé de restauration a sa pièce et peut travailler comme ça à la découverte des films et à la sauvegarde des films.
D'accord. Donc Hervé, on rentre dans une salle de visionnage et on a une espèce de grande table, hein, c'est ça ?
Voilà, donc c'est une table de visionnage qui nous permet de visionner des films safety, des films nitrate.
Qu'est-ce que vous entendez par les films safety ?
Alors c'est des films qui ont remplacé les films sur support nitrate. Quand les films ont été interdits dans les années 50, 53, 54, il a fallu donc les remplacer et les nouveaux supports se sont appelés les supports safety, oui, pour les distinguer de la dangerosité des films nitrate.
Alors, on s'installe, c'est ça, devant la, voilà, donc la table de visionnage. On dirait un poste de pilotage d'avion, d'ailleurs, c'est impressionnant.
En fait, toutes les pièces sont organisées de la même façon. Oui. Il y a toute la bureautique qui permet de consulter les bases de données. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que les bases de données à la Cinémathèque française sont partagées avec celles du CNC et d'autres archives du Centre National du Cinéma, mais elles sont aussi partagées avec les bases des laboratoires français, des Claire et LTC Patrimoine, et elles sont partagées avec les autres cinémathèques en France, entre autres, donc Toulouse par exemple.
Mais à quel moment on décide de restaurer un film ? Est-ce que c'est le fait que la pellicule est trop endommagée ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se lance dans cette aventure ?
Dans notre plan de sauvegarde et de restauration, on a plusieurs façons de fonctionner. D'une part, on est dans une démarche purement patrimoniale. On ouvre des boîtes. Certaines boîtes sont dans un état de décomposition et il s'agit d'intervenir très rapidement. Donc dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle des sauvegardes argentiques. On fait une copie sur des supports argentiques du film qui est en train de se décomposer. On peut aussi, de la même façon, passer par l'étape de la numérisation. Et dans ce cas-là, le film existe en numérique, mais on peut faire aussi un retour sur film pour que le film, en finalité, soit quand même conservé sur un support argentique. Voilà. C'est assez complexe, hein. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'aujourd'hui encore, on considère qu'un support numérique de diffusion ou de conservation a une durée de vie très limitée par rapport à un support argentique. Un film bien conservé sur la pellicule 35 mm, aujourd'hui, il y a des films qui ont plus de 120 ans, puisque les premiers films du cinéma existent encore. Je vous mets au défi d'ouvrir un disque dur dans 120 ans pour savoir si les images qui sont conservées dans ce disque dur sont encore présentes, quoi. Donc on est toujours dans cette démarche, aujourd'hui, de faire un retour sur film pour la conservation.
Aujourd'hui, il y a combien d'œuvres qui sont conservées au fort ? Et parmi ces œuvres, combien ont été restaurées dans les années récentes ?
Alors, conservées ici et conservées au sein des archives du CNC, on a à peu près 80 000 éléments.
80 000.
Des courts, des longs-métrages, etc., des films français, des films étrangers, des films d'ITRA, des films Safety. Donc, on est vraiment sur toute l'histoire du cinéma. À la Cinémathèque française, on a une dimension internationale. On ne s'intéresse pas qu'au cinéma français. Voilà, on a pu participer à des restaurations de films américains. On a pu participer à des restaurations de films italiens, beaucoup, puisqu'il y a une proximité avec l'Italie. Mais bon, voilà, on est quand même dans cette démarche de conserver l'ensemble du cinéma. Et surtout, beaucoup de cinéastes étrangers ont déposé à la Cinémathèque. C'est-à-dire qu'en fait, le premier geste de conservation, c'est le dépôt à la Cinémathèque. Hitchcock a déposé ses copies Technicolor à la Cinémathèque française. Renoir a déposé ses films aussi. De grands cinéastes japonais, américains, offraient à Langlois une copie pour qu'elle soit conservée à la Cinémathèque.
D'accord.
Ici, on est dans un espace assez labyrinthique, sur différents niveaux. Cette allée fait à peu près 100 mètres.
Avec des rayonnages.
Voilà, donc il y a des films partout qui sont classés dans l'ordre d'arrivée, on n'a pas trop le choix. Et donc on a la même chose à l'étage supérieur, à l'étage du dessous et sur les côtés. Donc on peut circuler comme ça de façon complètement aléatoire. Lorsqu'on regarde les bobines, tout ce qui est en boîte bleue, c'est les films dont on a changé les boîtes. Voilà. Et vous voyez, il y a encore des boîtes métallique, et là pour le coup il y a tout ce travail, il faut ressortir les boîtes métalliques pour les remplacer par des boîtes normalisées de conservation. Alors ce qui est assez amusant aussi, c'est que vous voyez des boîtes un peu originales.
Oui. Là on dirait des fromages suisses là.
Voilà, donc alors les fromages suisses, c'est en fait la façon dont les films japonais étaient conditionnés.
Ah oui,
voilà, donc d'ailleurs si vous regardez les titres qui sont sur les boîtes, vous voyez des titres japonais, bon, c'était les boîtes qui fabriquaient au Japon.
Bon, Hervé, merci de ce voyage totalement inouï. Ce matin, on a déjà eu des palpitations avec les appareils cinématographiques. Là, on rencontre en fait les pellicules et ses œuvres avec beaucoup de passion. Et on est vraiment très heureux de ce voyage. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc notre aventure entre les différentes réserves de la Cinémathèque n'est pas terminée. Nous retournons maintenant vers Paris pour rencontrer Delphine Varin, qui est responsable des collections papier et notamment des scénarii de films. Allons-y. « Et nous arrivons maintenant dans les réserves parisiennes de la Cinémathèque, réserve tenue dans un endroit secret. Et vient à notre rencontre Delphine Varin. Bonjour Delphine.
Bonjour François.
Bon, alors, quel est votre métier?
Alors moi, je suis responsable de l'accès et de la valorisation des collections non-film.
Alors ça recouvre quoi?
Ça recouvre toutes les collections de la Cinémathèque qui sont autre chose que les films.
D'accord.
Donc, des archives, des photos, des affiches, des dessins.
Est-ce que par exemple, vous conservez des scénarios?
Bien sûr.
Ah oui?
On en a beaucoup. Ça représente une des plus grandes parties de nos archives papier.
Alors combien de scénarios, par exemple, combien de scénarios vous conservez?
Je crois que je ne peux pas vous le dire tellement il y en a.
Tellement il y en a?
Oui.
Mais c'est une collection...
C'est une collection énorme, c'est une collection qui n'est pas fermée, on en reçoit encore régulièrement. Donc on voit l'écriture et l'évolution, l'écriture et du métier de scénariste. Avec un scénario qui aurait été écrit dans les années 10, n'a plus rien à voir avec un scénario écrit dans les années 2000, par exemple.
Alors Delphine, décrivez-nous le lieu incroyable dans lequel nous nous trouvons, avec un plafond qui, je ne sais pas, il y a 7 mètres de hauteur, 10 mètres de hauteur.
Oui, j'imagine. Et puis on a ces grandes chaussettes
oui.
qui sont dégonflées, mais sinon il y a de l'air qui est propulsé pour ventiler.
D'accord.
On contrôle la température, l'hygrométrie, donc tout est
alors
sous
là,
contrôle
on est,
ici.
Là, on est entre...
Il y a des boîtes d'archives devant vous, regardez-moi
oui.
tout ça. Et ces boîtes-là contiennent pas que des scénarios, parce qu'un oui. fonds d'archives, bah, il peut contenir... effectivement, c'est sur la fabrication d'un film, mais ça peut être aussi sur l'histoire du cinéma. Ça peut être des archives de critiques de cinéma, de comédiens. Donc, on a aussi de la correspondance.
Ah oui, de la correspondance.
Oui,
ah, oui.
Une correspondance magnifique. On peut avoir des archives un peu plus personnelles, parce
oui.
que parfois, les gens nous donnent leurs archives. Et, par exemple, chez Truffaut, on va avoir toutes les lettres de ses fans.
Ah oui.
Donc,
ah, oui.
notamment toutes les fans japonaises.
C'est
très
ah,
rigolo.
C'est amusant, ça.
Voilà. On a des choses professionnelles
oui.
et puis des choses qui dérivent un petit peu, comme ça.
Et alors là, en s'arrêtant juste devant une armoire, on voit Fonds Jacques Demy.
Voilà, ce sont les archives de Jacques Demy.
Alors, je crois que vous voulez nous montrer...
Ah oui, on a des belles choses à
voir. Ah oui, alors bon, on vous suit. Allons-y.
On va aller jusqu'au coffre.
Ah donc, jusqu'au coffre.
C'est rare qu'il y ait des choses au coffre, mais là, je voulais vous montrer quelque chose de très rare et de précieux.
Alors, ouverture du coffre, on dirait un petit peu le coffre de la Banque de France,
un peu. C'est
un peu ça. Oui.
Un peu compliqué.
Ah oui, mais c'est normal, puisque c'est précieux.
Voilà.
Donc là, on voit en fait une armoire à l'intérieur du coffre et des boîtes qui doivent contenir, à mon avis, des trésors. Alors, quel trésor?
Ah,
on ne sait pas.
Ça, vous allez le découvrir.
Oui. On vous suit. Vous transportez les trésors avec une attention, une méticulosité qui m'impressionne.
Ça, on est obligé.
Oui.
La mission de la Cinémathèque, c'est aussi de conserver
ah, oui.
l'histoire du cinéma. Sans jugement de valeur.
Oui. Sans hiérarchie.
Sans hiérarchie.
Oui.
On ne juge pas de la qualité d'un film. Tout est intéressant. Tout témoigne de l'histoire du cinéma. Tout témoigne de l'évolution de la technique. Donc un document... Un scénario d'un film qu'on pourrait juger très mineur pourrait être extrêmement intéressant d'un point de vue technique. Donc on se garde bien de juger quoi que ce soit. Et on va voir si vous reconnaissez ce que je vais vous montrer là.
Donc c'est tout simplement un classeur, hein ?
Tout à fait.
Ouais.
Un classeur de conservation qui est fait dans un carton qui résiste aux manipulations. Est-ce que vous reconnaissez cette écriture ?
Ah oui ! C'est l'écriture de Prévert.
C'est l'écriture de Prévert. Mais est-ce que vous sauriez de quel film il s'agit?
Prévert, il en a écrit plusieurs, des scénarios.
Oui.
Donc, Ah, attendez. J'ai vu l'avant-scène, l'homme blanc.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il ne s'agirait pas...
Si je vous dis Garance.
Ah, Garance. Les enfants du paradis.
Et voilà.
Ah, c'est beau, ça.
Et donc là, vous avez le scénario original.
Original?
Oui.
Donc, écrit en quelle année?
Celui-ci a été inscrit en 42, donc il nous a été donné par Eugénie Bachelot-Prévert.
Oui.
C'est un don fait à la Cinémathèque. Et ce qui est très intéressant avec ce document-là, c'est qu'on va avoir en regard le découpage technique de Marcel Carnet.
Ah oui.
Ils ont écrit le scénario ensemble. On a le scénariste et le réalisateur qui peut faire communiquer avec les documents.
Alors, ce qui est, je trouve, assez émouvant, c'est que donc, c'est une feuille sur petit carreau.
Oui.
Et on voit l'écriture, en effet, très précise de Prévert, presque scolaire, avec une
tout
marge soulignée.
Tout à fait.
On sent que c'est très méticuleux.
Et de la couleur.
Et de la couleur, oui, il souligne. Ça, c'est très beau, ça.
Ouais,
très
Prévert
beau.
Prévert aime bien mettre de la couleur, aime bien dessiner, aime bien
Et alors, vous voyez, là, on a d'autres papiers qui sont plus récents.
Oui.
Et là, c'est l'écriture de son frère, Pierre.
D'accord.
Qui a repris le scénario à un moment donné et qui a voulu l'ordonner et puis mettre des indications aussi pour aider un peu à la compréhension parce que l'écriture de Jacques n'est pas très compréhensible.
Oui.
Pas
oui.
toujours lisible, en tout cas. Il y a des moments où il n'y arrive pas. De toute façon, on verra, il y a des notes où oui. on sent bien qu'il n'a pas réussi à traduire ce que son frère écrivait.
Et alors, là, dans ce film, je crois que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est dans le patrimoine, pas seulement français, mais presque le patrimoine mondial du cinéma. Comment s'emboîte leur travail ?
Il y a Prévert, qui est très littéraire. On sent les personnages dialoguent. On est vraiment dans l'histoire.
Oui.
Mais on n'est pas encore dans le cinéma. C'est une histoire. Comme on raconte, on verrait bien avec ce chant choral que peut avoir Prévert avec toutes ces personnes qui se répondent. Et puis Carnet arrive, et là, tout de suite, ça prend forme. On va retrouver les dialogues, on va tout retrouver. Mais ça y est, il y a l'écriture cinématographique qui est là.
Ah oui, ça,
on va regarder ça.
Ah oui, ça, c'est passionnant.
On va faire un petit peu de place.
Oui.
Et voilà.
Ah oui.
Les enfants du paradis.
Donc ça, c'est l'écriture de...
Ça, c'est Carnet, qui est beaucoup plus facile à comprendre, plus lisible, puisque c'est quelque chose aussi dans les archives, quand on a des manuscrits, de se familiariser avec l'écriture. Suivant les époques, c'est plus ou moins facile à comprendre, à lire, quand c'est écrit à la plume, quand c'est écrit au stylo bille, enfin, voilà. Donc voilà, on a l'écriture de Carnet.
Alors qu'il est plus lâché, hein, c'est beaucoup plus...
Voilà, et déjà, il y a des indications de plan.
Ah oui, il découpe.
Il découpe. Là où Prévert, et dans la littérature, raconte une histoire. Carnet raconte l'histoire, mais de façon cinématographique.
Bien sûr.
Donc il dessine ses plans, il écrit ses plans déjà.
Bon, alors de trésor en trésor, vous allez nous mener à un autre trésor.
Un autre trésor.
Alors, est-ce qu'on peut regarder ça ?
On va regarder ça, et c'est surtout que cet autre trésor témoigne aussi de la spécificité des collections de la Cinémathèque française.
Oui.
C'est une cinémathèque qui n'a pas une collection nationale ou locale, mais qui a une collection mondiale, internationale. La Cinémathèque conserve l'histoire du cinéma avec un grand H. Mmh. Et nous avons des documents de la cinématographie de tous les pays. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un document. Alors, pareil, la surprise.
Voilà, là, c'est presque... Ah oui.
Alors,
oh, bah,
regardez
ça. On reconnaît tout de suite.
Et vous reconnaissez tout de suite.
On reconnaît le maître.
Vous reconnaissez le maître, on reconnaît la signature.
Ah oui, Hitchcock.
Hitchcock. Donc, c'est pour La main au collet. C'est un film américain. Donc, c'est une particularité. Quand un film était tourné en France... Il y avait une équipe française. Et donc, la script Sylvette Baudreau était script sur ce film.
Oui. Et alors là, c'est quoi, c'est sa signature ?
C'est la signature d'Hitchcock.
Mais avec sa...
Avec sa petite silhouette.
Avec sa petite silhouette.
Voilà.
Oh, ça, c'est incroyable.
Et puis, elle est dédicacée également par Cary Grant.
Ah oui !
C'est un peu une tradition à la fin des tournages de faire signer... En tout cas, Sylvette Baudreau a toujours fait signer ses scénarios. Et une petite particularité, les scripts, elles ont un petit tabouret de script.
Oui.
Et elle, son petit tabouret de script, elle a reporté toutes les signatures qu'elle avait eues sur divers scénarios et elle a brodé
sur le tabouret,
sur l'assise du tabouret. Elle a rebrodé en couleur chaque signature et puis elle en a fait don à la Cinémathèque.
Oh, c'est beau,
voilà.
Ça.
En tout cas, on a tellement de choses, de trésors encore à traiter ici que je crois que même après notre retraite, tous là, les générations futures auront encore du travail,
travail
sur cette matière-là, en tout cas.
Oh, merci. Alors, nous venons de quitter Delphine Varin et maintenant nous sommes à la recherche d'une personne très importante à la Cinémathèque, qui est Charline Carrère, qui est dans son royaume des costumes, des objets, des décors. Bonjour Charline, comment allez-vous ?
Bonjour François, bienvenue dans les réserves de la Cinémathèque française.
Alors là, on est dans votre royaume, Charline.
Oui, on est donc dans les réserves des collections de costumes, objets, décors.
D'accord.
Voilà.
Alors, décrivez-nous, on est toujours dans la cathédrale, là, avec les plafonds qui font 10 mètres de haut.
Mais... Oui, un petit peu moins, 6 mètres, mais...
J'exagère toujours un peu.
Ah bon, d'accord. Mais effectivement, ici, c'est une zone où il y a essentiellement des costumes. Alors, les costumes, ils sont, suivant leur fragilité, leur poids, soit stockés sur des portants. Alors, bien sûr, protégés de la poussière, de la lumière, avec des housses de coton neutre, des cintres rembourrés. Et s'ils sont un peu lourds, fragiles ou détériorés ou qui ont suivi des parcours de restauration, ben dans ces cas-là, on les met à plat dans des boîtes de carton neutre avec du matériel de conservation et à la préservation, bien sûr, de la lumière et de la poussière.
Donc dans ces immenses déposoirs, en fait, on trouve à la fois ces grands cartons, et puis de l'autre côté, c'est très beau esthétiquement, une armée un peu d'ombre, donc dans des protections, c'est ça?
Oui, effectivement, il y a dans la collection de la Cinémathèque un peu plus de 3800 costumes et objets. Objets accessoires autour du costume, ça va être un chapeau, des chaussures, des bijoux autour du costume. Et donc tout ça est stocké de part et d'autre.
Alors on se pose la question, quand on imagine la fin d'un film, tout le monde se sépare, les costumes, alors comment ça se passe?
Alors, ben ça dépend déjà du statut du costume. Si c'est une création, effectivement, la production en est toujours propriétaire. Oui. Si c'est une location, ça repart dans le lieu de location. Il y en a quelques-uns sur Paris qui servent pour différents films. Alors, quand c'est une création, on essaye de faire de l'enrichissement. Hein. La Cinémathèque est toujours une institution vivante qui enrichit encore ses collections. Et donc, on sollicite les maisons de production. Les costumiers aussi savent le travail que réalise la Cinémathèque. Et donc, nous interpellent en disant, on vient de finir un film, est-ce que le costume vous intéresse? Alors, parfois, c'est vrai que les costumes n'arrivent pas aussitôt après la réalisation, la production, et on retrouve un costume quelques années plus tard. Ça a été le sort, d'une robe mythique qui est une robe de Autant en emporte le vent, oui, que nous avons dans les collections de la Cinémathèque. Alors, ça, c'était à l'époque d'Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, qui était passionné aussi par les costumes et qui recherchait pour créer la collection et son musée. Et donc, ce costume se trouvait dans un stock américain et a été retrouvé, presque identifié, parce qu'il était modifié par rapport au film.
Ah oui.
Voilà, c'est ça qui arrive, c'est que des fois, les costumes partent vers une autre production et ils sont modifiés aux mensurations de la nouvelle actrice. Ah. Ils peuvent rajouter des rubans, teintés. J'ai une robe dans les collections de Gigi, portée par Leslie Caron, qui apparaissait dans le film en rose, mais elle était dans Showbot, un film des années 50, en blanc. Pourtant, c'est des costumes Cécile Beaton, mais effectivement, ça avait été modifié et ensuite rejoué.
Alors, quel trésor allez-vous nous faire découvrir ?
Alors,
dans une grande boîte. Hein,
dans une grande boîte, oui, parce que celle-ci est fragile, au-delà du fait qu'elle est ancienne, puisque c'est un film de 1946 de Jean Cocteau qui s'appelle La Belle et la Bête.
Bien sûr.
Ici, vous avez stocké donc un costume. Je vais ouvrir la boîte. Voilà. J'ai mis mes gants pour préserver également et ne pas salir la robe.
Ouais.
Alors, je l'ouvre un peu plus grandement pour que vous la voyez en totalité, parce qu'elle vaut la peine.
Et comment ?
Puisque c'est effectivement une robe portée par Nan Germont, qui était donc la sœur de La Belle.
Oui.
Donc La Belle était jouée par Josette D. Donc c'est un film avec Jean Marais qui était dans le rôle de la bête.
Oui.
Et cette robe donc faite d'un lainage rouge assez intense, et le buste est donc en soie. Vous avez du crin à l'intérieur et tout ce qui est passementerie est fait de paille. Donc il faut savoir que le film était réalisé en 1946, on était à la sortie de la guerre, il y avait pas une richesse des matériaux, et donc si on doit parler de la conservation de cette robe, ben, rien n'est évident parce que la paille était collée, donc elle se décolle petit à petit, on est obligé d'intervenir avec des restauratrices du patrimoine pour recoudre la paille pour qu'elle tienne. Ben, malgré son grand âge, vous voyez, elle est quand même en très bon état.
Ce qui est étonnant, c'est de voir combien les matières sont intactes, mais aussi les couleurs.
Oui, les couleurs. Alors, parlons des couleurs, alors que c'est un film en noir et blanc.
Oui, justement.
Mais c'est vrai que l'importance des couleurs, on s'en rend pas compte, mais tous les films en noir et blanc n'étaient pas tournés avec des costumes noir et blanc. Et justement, il y avait ce travail de nuance du gris qui était important.
Écoutez, c'est un trésor particulièrement émouvant. Et je crois que vous avez d'autres choses à nous montrer.
Oui, là, on n'est plus dans l'univers fantastique de Cocteau, mais dans une réalité pour un film de guerre, alors qui est Onoda, 10 000 nuits dans la jungle.
Oui.
Alors, ce film est sorti en 2021. C'est un film de Arthur Harari. Et en fait, j'ai choisi ce film parce que il représente aussi une diversité de l'enrichissement.
Alors là, vous avez ouvert la boîte du costume.
Alors, pas la boîte de Pandore, même s'il y a différentes choses. Alors, il y a des costumes, effectivement, et des accessoires, des objets. Les costumes...
Oui, ça c'est la casquette.
Voilà, ça c'est la casquette. Alors, vous voyez, c'est accroché avec une épingle parce que c'est donné comme ça par la production. Les productions, après le film, elles donnent suivant les matériaux qu'ils ont sur le moment pour emballer. Donc, je peux avoir aussi bien des choses très bien rangées par la costumière. Je travaille beaucoup avec des costumières telles que Madeleine Fontaine, Anaïs Roman, Agnès Bézier, Mimi Lampica, qui vont me remettre les costumes avec des photos, avec qui est le personnage, etc. Je peux avoir des productions qui vont me dire bah, « tout est là et puis débrouillez-vous ». Bon, là... Effectivement, il y a des annotations sur les personnages parce que bon ben on peut croire que un uniforme ressemble à un uniforme. Ceci étant, ceux-là, ils ont été vieillis parce qu'il a passé plus de.
On voit d'ailleurs, hein, on voit les matériaux
ont
été noircis.
C'est vrai qu'au début du film, bien évidemment, il est envoyé par le Japon, par son armée. Il est impeccable, tiré à quatre épingles. Et puis, au fil des années, puisqu'il a très peu de vêtements et qu'il se retrouve dans cette île, le vêtement vieillit avec lui, en fait. Hein.
Oui.
D'ailleurs, il y a eu deux acteurs qui ont joué Onoda, parce que le temps,
30-40
ans, s'étale. Alors, c'est vieilli. C'est ce qu'on appelle dans le cinéma « patiner ».
Alors, il y a une autre chose aussi. Quand vous avez ouvert la boîte qui est tout de suite est remontée aux narines, c'est l'odeur.
Ah, l'odeur, oui.
Mais alors, pourquoi?
C'est une odeur. Parce que, justement, c'est patiné, alors, avec différents matériaux. Hein. Ça peut être de la terre. Suivant les films, ça peut être du thé, certaines teintures. Donc, ça sent un peu... Là, ça sent un peu la cave aussi, parce que les productions, bah, elles ont pas des grands locaux. Et parfois, après le tournage, ils mettent ça dans leur cave. La difficulté avec ces costumes, c'est que je ne peux pas les faire nettoyer.
Bien sûr.
Pour ne pas enlever la patine.
Oui.
Et ça, c'est toute l'histoire du film et du costume.
Et en même temps, c'est un défi formidable de conservation, ça, non ?
Oui, alors un défi, comme je vous ai dit, avec des petites bêtes, je me bats. Ceci étant, dans les réserves, il y a des pièges un peu partout. Et des immenses pièges aussi pour attirer, essentiellement, c'est les mythes, hein, le plus grand ennemi du textile.
Écoutez, merci beaucoup, Charline, pour ce voyage dans votre royaume. Vous avez expliqué un métier qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Quand on pense costume, on pense à la réalisation du costume, mais on ne pense pas à sa vie, à ses étapes, et surtout à sa conservation pour aussi les jeunes générations aussi. Donc,
oui,
très important.
C'est ça qui nous fait vivre aussi, c'est de transmettre ce patrimoine aux jeunes générations, ou de faire découvrir.
Bon, merci beaucoup, Charline.
Merci de votre visite.
Venez d'écouter le podcast Chefs-d'œuvre en réserve. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous. Chefs-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acmé Productions, d'après une idée originale de François Giannesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Lebolox-Salama. Production et éditorialisation, Marie-Laurence Chéry. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Dokuto et Ismaël Kamara. Enfin, mixage, Ben Auriel. À bientôt.